L'insouciance, Ben, une maison de vie, c'est la règle de trois de Laure Hubidos. Je n'ai jamais connu l'insouciance des enfants, dit-elle. En 1973, Laure a 4 ans, sa mère, atteinte d'un cancer, meurt. Quand on traverse ce genre d'épreuve, soit on se recroqueville sur soi, soit on devient plus empathique. Elle grandit auprès d'un père officier de marine marchande, passionné de philosophie. Jeune adulte, installée à Besançon, elle devient attachée de presse du conseil régional de Franche-Comté. En 2001, son père meurt. Depuis, elle se lit chaque jour. Et si je devais mourir demain, est-ce que ce que je fais de ma vie me satisferait? Aidante, bénévole de l'association Jusqu'à la mort accompagner la vie, elle rencontre Ben en 2003, un cinquantenaire atteint de la maladie de Charcot. Pendant plus de 2 ans, elle lui téléphone quotidiennement et l'emmène parfois en balade. Un jour, il se promène le long de la vallée de la Loue et il lui dit « J'oublie que je suis malade ».
Je pense que j'ai toujours ça, eu ça en moi, d'avoir ce désir d'aider les autres, et en particulier les personnes en souffrance. Après, mon expérience personnelle m'a certainement amené dans ce domaine particulier des soins palliatifs.
Ben meurt en 2005, consciente du soulagement que son soutien lui a apporté. Elle mûrit déjà un nouveau projet. En 2012, à Besançon, elle parvient à ouvrir ce qu'elle appelle une maison de vie.
J'ai dit, un jour, voilà, si j'aimerais bien avoir une petite maison, et puis ce que je fais pour un ou deux, le faire pour plus, mais surtout pour leur permettre de se sentir vivant jusqu'au bout.
7 résidents atteints de maladies incurables habitent la maison. Laure, les employés et les bénévoles leur apportent des soins, de l'attention et leur proposent des sorties ou encore des activités culturelles.
Je suis arrivée à la maison de vie. Le Père Noël, le personnel très très bien, qui veille beaucoup sur nous.
En 2015, épuisée, elle se met en retrait, mais 2 ans plus tard, elle crée le collectif national des maisons de vie. Aujourd'hui, 3 autres établissements ont vu le jour et 20aine de projets sont en cours. Parmi les patients qu'elle a accompagnés, Laure Hubidos se souvient de Marie, arrivée mourante à Besançon. Elle a finalement vécu 1 an à la maison de vie. Elle a pu renouer des liens avec sa fille, retrouver la joie et la paix intérieure.
Alors la maison de vie, donc la toute première à Besançon, il y en a aujourd'hui 4, une 5e très bientôt inaugurée dans quelques jours dans le Tarn. Très concrètement, qu'est-ce que c'est que ce lieu, Laure Hubidos? Comment est-ce que c'est organisé? Comment est-ce que c'est aménagé, une maison de vie?
En fait, c'est très simple, c'est organisé vraiment comme une vraie maison. Quand j'ai eu cette idée, je voulais vraiment avoir un lieu qui ressemble le plus possible à une maison. Et je me disais même, si j'arrive pas à créer un lieu, pourquoi pas accueillir une ou deux personnes chez moi? Enfin, ça allait assez loin, quoi. C'était vraiment... Donc la maison de vie, c'est vrai que c'est important qu'elle soit comme une vraie maison pour que les gens puissent se sentir bien. Et on a vu dans les faits, donc à la maison de vie de Besançon, à quel point le lieu était important et pouvait avoir un aspect presque thérapeutique. En fait.
Avec donc une salle à manger, un salon, des chambres, une cuisine. Mais ce sont des lieux qui sont quand même assez médicalisés, un peu, jusqu'où?
Jusqu'au bout. Et jusqu'au plus y a donc, lourd, y a, même.
Mais il y a donc des installations pour médicaliser, pour
en fait,
les patients aussi?
Je pense que la maladie grave et la mort, bien sûr, fait peur. Et on a l'habitude, forcément, d'être pris en charge à l'hôpital pour être soigné. Mais quand on est atteint de pathologies graves, lourdes et pour certaines incurables, l'hôpital n'est pas forcément la réponse adaptée. Et j'ai pu expérimenter à la maison de vie, même si ça pouvait être effrayant, parce que je vois bien que les équipes que j'avais recrutées, qui étaient vraiment enthousiasmées de pratiquer le soin comme elles l'avaient toujours rêvé, étaient très déstabilisées de se retrouver dans un lieu hors les murs, en fait. Mais on a pu accompagner des gens atteints de pathologies graves, type maladie Charcot, extrêmement invalidante, avec des soins très lourds, sous assistance respiratoire, alimentation entérale. Et en fait, je dirais, quand on veut, tout est possible.
Avec des activités, donc. C'est-à-dire que les gens qui séjournent, quel type d'activité ils pratiquent
Là, je vois dans le petit portrait qui a été diffusé, on voit un monsieur qui est décédé aujourd'hui, mais qui était atteint d'une SLA, Patrick, qui un jour me dit, j'avais une décapotable. Voilà. Et il me dit, oh alors, mais je voudrais vraiment partir en balade. Ah ben voilà, il y a la photo. Il dit, je voudrais partir en balade, boire l'apéritif au bord du Doubs, voir la rivière, etc. Bah, je lui dis, ok, on va organiser. Bon, ça a été compliqué, mais parce que Patrick avait donc la VNI, donc l'assistance respiratoire, avec le masque qu'on voit sur la photo, mais avec tout le bloc qui va avec. C'était il y a 10 ans, donc c'était moins évolué encore qu'aujourd'hui, ça évolue vite. Mais il fallait surtout pouvoir mettre Patrick dans la décapotable. Patrick était complètement paralysé de là jusqu'en bas. Donc j'ai fait appel à un monsieur qui nous vendait du matériel médical. J'ai dit voilà, on voudrait faire ça. Donc il m'a trouvé un coussin qui tournait avec le lève-malade. On a mis Patrick dans la voiture. Enfin,
tout est possible.
On l'a fait, quoi. Mais tout est possible. À partir du moment où... Déjà, il faut oser. Oser.
Et vous menez un combat justement pour obtenir un statut juridique. Et vous mettez en avant l'argument financier en disant finalement ça coûte beaucoup moins cher qu'un séjour à l'hôpital.
Oui, c'est pour ça qu'aujourd'hui je lève un peu la voix. Parce que déjà ça fait 20 ans et que premièrement c'est une question de bon sens. Parce que rien n'est plus simple dans l'absolu que de créer une maison de vie. Et en plus, économiquement parlant, c'est moins cher qu'un séjour à l'hôpital.
Combien 250 euros voilà. par jour. Hein.
Donc, j'ai fait une moyenne, un peu une étude. Moyenne par jour à l'hôpital, tout service confondu, ça peut aller de 500 euros à 4000 euros, selon les services. 1500 euros par jour à l'hôpital, 250 euros par jour dans une maison de vie. La règle, le calcul est vite fait.
Et c'est aussi une solution de bon sens au regard, évidemment, de l'évolution démographique de nos sociétés et du vieillissement de la population en France.
Oui, complètement. Et c'est aussi un peu une des raisons de mon agacement, on va dire.
De votre agacement auprès des autorités, sonner à toutes les portes pour obtenir davantage de financement.
Alors je crois que là, cette fois, j'ai sonné vraiment à toutes les portes. Parce que la démographie avance, on a de plus en plus de personnes âgées, voire très âgées. On vit de plus en plus longtemps avec des pathologies graves, évolutives. Et on le sait depuis des années, des décennies. On sait qu'on va avoir ce tsunami, parce que c'est un tsunami. En fait, tout le monde le sait, mais tout le monde fait comme si ça n'existait pas. Et on ne l'a pas anticipé.
Et alors ce défi, Laure Ubido, ce que vous évoquez, les dernières années des personnes qui sont de fait condamnées par une maladie grave, c'est aussi un lourd défi pour ceux qui les accompagnent, pour leurs proches, pour leur famille, ceux qu'on appelle les aidants, Nadia.
Oui, vous connaissez évidemment le sujet. C'est un sujet majeur, très important, dans la mesure où on estime aujourd'hui qu'en France, un Français sur six est un aidant à des degrés divers, évidemment, avec une forte proportion de femmes. Elle représente 62% tout de même. C'est une situation qui peut mener, on l'imagine, à une forme d'épuisement psychologique, épuisement physique également. On est très mobilisé, très sollicité. C'est difficile également de concilier tout ça avec une vie professionnelle, même si on peut le noter, depuis 2020, il existe un congé de proche aidant. Il dure 3 mois à peine, il est renouvelable, mais 3 mois à peine, il est rémunéré au SMIC. C'est aussi un objectif de ces maisons de vie, d'offrir d'une certaine manière du répit à ces proches aidants qui sont parfois surmenés.
Bien sûr, bien sûr. Ça tombe sous le sens. En fait, c'est vrai qu'à la maison de vie de Besançon, donc que j'ai créée en 2011, j'avais un peu réparti les chambres. La première maison, parce qu'après j'en ai fait une deuxième, avait 7 chambres, donc 4 pour des séjours longs et 3 pour des répits, parce que c'est fondamental. Un autre exemple, parce qu'il n'y a que le concret en fait qui peut vraiment expliquer tout ça. Un jour, j'ai une femme qui vient me voir et qui me dit mon mari était médecin. Il vient de prendre sa retraite et il était très gravement malade. Elle me dit, il faut que vous fassiez quelque chose pour moi. Elle était en pleurs dans mon bureau. Parce que je suis maltraitante et si vous ne faites rien, je crois que je vais me suicider, je vais le tuer aussi. Donc il y a un moment donné, dans une société telle que la nôtre, sans parler de l'humanité qu'on devrait peut-être tous laisser s'exprimer en nous, c'est un devoir social, sociétal, en fait, de répondre à cette demande-là, mais qui n'est pas juste un exemple, ça nous concerne tous, en fait, quand on y est confronté.
Cette question de la fin de vie, elle nous intéresse tous, elle nous concerne tous, effectivement, comme vous le dites, et puis elle apparaît quand même dans le débat public ces dernières années, même ces toutes dernières semaines, à travers notamment la Convention pour la fin de vie, la Convention citoyenne sur la fin de vie, qui aboutit à des conclusions, d'ailleurs, un débat législatif qui devrait s'ouvrir dans les semaines ou les mois qui viennent, autour de deux problématiques, en quelque sorte. L'alternative, c'est entre l'euthanasie et le suicide assisté. Et ça vous agace qu'on limite ce débat sur la fin de vie à ces enjeux-là? Pourquoi?
Bien sûr, parce que je pense que c'est un raccourci très facile, en fait. Pour ne pas dire un peu opportuniste. Parce que, ayant accompagné des personnes jusqu'à la fin, cette question, c'est pas la question essentielle. Quand on est en fin de vie, déjà, ce que j'ai écrit dans la tribune que j'ai faite début mars, et ce que j'ai écrit au président de la République aussi dans le courrier que je lui ai adressé, ça évolue, en fait. On peut avoir un avis aujourd'hui, nous, bien portant, qui peut évoluer lorsqu'on apprend qu'on a une maladie grave, qu'on nous apprend qu'elle est incurable, et lorsqu'on est en fin de chimio, fin des protocoles, ça peut encore évoluer. Donc rien n'est jamais figé. Comme la vie, d'ailleurs, tout est en mouvement permanent, et ben la fin de vie, c'est la même chose.
Donc cette alternative ne suffit pas à répondre aux défis de la fin de vie.
Vraiment pas. Après, j'ai pas d'avis tranché, vous voyez, et c'est pas mon rôle.
D'accord.
Mais moi, ce que je peux dire, par contre, c'est qu'à la maison de vie, j'ai accompagné bon nombre de personnes avec des pathologies extrêmement lourdes et graves, je n'ai pas une seule demande d'euthanasie. C'est tout.
Merci.